France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Semyon Bychkov. Je suis né à Saint-Pétersbourg, qui à l'époque a été Leningrad, en 1952. Je suis chef d'orchestre.
Il y avait l'école Glinka, il y a ensuite eu le conservatoire Rimsky-Korsakov avec Ilya Mouzine, ensuite il y a eu le grand prix du concours Rachmaninov, il y a eu ses débuts finalement avortés. Vous allez partir, vous allez l'avoir votre visa, vous allez partir en direction des États-Unis.
Oui.
Mais est-ce que vous partez avec vos parents, avec votre frère, avec votre femme, avec quel argent? Comment vous arrivez aux États-Unis? Parce que vous allez arriver à New York, est-ce que vous arrivez comme ça? Ou est-ce que finalement le voyage prend plus de temps? Comment les choses se déroulent?
Quand on a pris la décision d'essayer de quitter le pays, j'ai annoncé cette décision à mes parents. Et ils ont dit à ce moment-là, on va partir aussi. Sauf que comme mon père a été scientifique dans l'armée, il avait un accès, c'était travail secret. Donc, on a eu peur que si on essaie de tous quitter, tous seront refusés. Donc, la décision a été prise par la famille que mon épouse et moi, on serait deux premières d'essayer de partir. Et ensuite, si on a cette permission, ensuite, mes parents vont essayer de suivre. C'est ce qu'on a fait. Donc, on ne savait pas quelle sera la réponse. On ne savait pas combien de temps il faudrait attendre. Mais figurez-vous, 30 jours plus tard, on reçoit un appel. Demain, vous venez à bureau de KGB pour avoir la réponse. Sauf que ils nous ont appelé jeudi. Et demain, ça veut dire vendredi à 16h. Et vendredi 16h a été connu le jour des refus. Donc, ils te donnent 24h pour essayer d'imaginer ta vie après être refusé. Alors, le lendemain, on arrive. Il y avait 9 familles, une après l'autre, sont été refusées. Cette fois-ci, c'était à nous de rentrer dans la pièce où il y avait 2 généraux de KGB avec un magnétophone qui est tourné et les 2 micros placés pour enregistrer chaque mot qui est prononcé. Et alors, il commence. Votre demande d'immigration a été considérée. Et la décision a été prise. Et à ce moment-là, il commence à tourner les pages de dossier comme s'il ne savait pas la réponse. Et la décision a été prise de vous accorder la permission de quitter l'Union soviétique. Silence. Moi et mon épouse, on est complètement choqués, on ne sait pas quoi. Et finalement, je dis, mais qu'est-ce que vous supposez que je dois faire maintenant? Et c'était tellement ridicule que les 2 KGBistes ont éclaté à rire, parce que c'était ridicule. Donc, ils ont expliqué le système. On vous donne 3 semaines pour finir avec les formalités, et après, vous partez. On pouvait échanger des roubles au dollar. Donc, c'était possible d'avoir 100 dollars dans la poche quand tu quittes l'Union soviétique. Il fallait payer énormément de frais pour le visa, etc. Il fallait aussi payer une somme énorme pour le fait que on te retire ton citoyenneté. Tu n'es plus citoyen soviétique. C'est leur décision, mais c'est à toi de payer. Donc on les payait et on a quitté avec 100 dollars dans la poche, par avion.
Thank you.
on est atterri à Vienne. 10 jours à Vienne. Ensuite, on est transféré à Rome. 6 mois à Lido di Ostia, qui est à 20 kilomètres de Rome, qui a été une période absolument merveilleuse.
Et tout liberté. Ça, c'était parce que le voyage devait se passer de cette façon-là.
Exactement. Avant d'arriver. C'était justement, c'était la carte de route pour les réfugiés. Parce que finalement, après 6 mois, on a reçu la visa pour entrer aux États-Unis. Et sur ce document a été marqué le statut. Et le statut a été réfugié conditionnel. Donc, j'étais un réfugié. Quand je suis venu aux États-Unis le 6 août 1975.
Sans plus de nationalité.
Sans plus de nationalité. Et comme ça, commencer la deuxième vie.
Un mot quand même sur ces 6 mois que vous passez à Ostia en face.
C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Imaginez la beauté de Rome, beauté d'Italie, la liberté et la découverte de tout. C'est absolument inouï. Et c'était à cette période-là que j'ai reçu une des plus importantes leçons de ma vie. Parmi les réfugiés, il y avait un pianiste, Vitaly Margulis, aussi de Leningrad. Il est venu à écouter, quand je dirigeais, le concert de Rachmaninov, quand j'ai gagné le premier prix. Ensuite, il est venu me voir et il était extrêmement chaleureux. Mais on n'a jamais passé du temps ensemble. Il a quitté Leningrad peut-être 3 mois avant moi. On se rencontrait encore à Rome et devenu très proche. Et donc, un jour, il a été invité de donner un masterclass et jouer un récital à Freiburg, en Allemagne, parce qu'il y avait un poste de professeur à conservatoire de Freiburg. Il est parti, il est revenu avec le contrat. Il était le premier parmi nous qui avait le futur. Et ce soir-là, il y avait une fête de célébrer cet événement. Alors, à un moment donné, il me dit, je voudrais te raconter comment ça se passait à Freiburg. On va aller dans une autre pièce. Il me raconte. Et à la fin, il sort $20 de sa poche et essaie de me l'offrir. Naturellement, je ne peux pas l'accepter. $20, pour vous donner une idée, on pouvait manger peut-être 2 semaines, très modestement, mais de ne pas mourir de faim. Et pourtant, on ne pouvait pas accepter. Et je vois qu'il a les larmes aux yeux et il me dit, tu sais, j'ai gagné un peu d'argent et je voudrais partager un petit peu avec toi. Un jour, il y aura quelqu'un qui aura besoin de ton aide, tu vas l'aider et dans cette manière-là, tu vas pas repayer, mais retourner le geste. Et là, j'étais coincé. Je ne pouvais pas refuser. C'est pour ça que j'appelle ça comme une des plus importantes leçons que j'ai reçues dans la vie. Des années plus tard, il est à Freiburg, je suis déjà aux États-Unis. Je viens à Dresde pour diriger Staatskapelle. Je suis à mon hôtel. J'habite la suite de Richard Wagner, qui te donne déjà une certaine ambiance, l'inspiration, tout ce que vous voulez. Et le téléphone sonne. Lui, Vitaly Margulis, il est à Dresde. Il a vu mon nom sur l'affiche. Il appelle. On parle, il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne. Et finalement, je dis, tu sais, Vitya, je voudrais que tu saches que le geste que tu avais fait envers moi, j'ai fait envers des autres. Il dit, oui, j'ai entendu.
Thank you.
vous avez dit, Semyon Bychkov, que quand vous posez le pied à New York, c'est une renaissance véritablement. C'est une deuxième vie. La première a existé et reste évidemment votre colonne vertébrale. Mais il y en a une seconde qui commence. Vous arrivez à New York. Vous êtes tout jeune. Vous pourriez ne plus étudier et commencer directement à chercher une vie professionnelle. Finalement, vous allez quand même faire le choix de d'étudier
encore. Ça serait impossible. Imaginez que, en tant que chef d'orchestre, de chœur, peu importe, comment peux-tu montrer que tu es capable de le faire si tu n'as pas un instrument? Et personne ne te donnera un instrument sans savoir que tu es capable. Un violoniste peut jouer son violon, pianiste son piano et chanteur peut chanter. Pour un chef, c'est impossible. Alors, j'étais complètement méconnu, personne ne connaissait et je ne connaissais personne. Il y avait un seul numéro de téléphone que j'avais quand je suis arrivé à New York, c'était celle de Kiriana et Oksana Zilotti, qui sont été filles de grands pianistes et chefs d'orchestre Alexandre Zilotti, qui était cousin de Rachmaninov, qui a enseigné Rachmaninov au conservatoire de Moscou à l'époque. Et ces deux dames sont été les seules que je pouvais téléphoner, que j'ai rencontré et devenu presque comme un grand-fils pour eux. Mais c'était tout, ça suffit pas. Donc, je me suis dit, bon, il faut quand même pouvoir rencontrer les gens dans le monde de musique. Comment peut-on faire? Alors, je suis allé dans le conservatoire de Juilliard School of Music. C'était trop tard. En août, tout a été fini avec les examens. Où est-ce qu'on peut aller? Une autre conservatoire s'appelle Manhattan School of Music. Mais ils ont déjà arrêté le programme de la direction. Est-ce qu'il y a un autre lieu? Oui, Mendes College of Music, East Side. Alors, à pied, naturellement, on a traversé Manhattan de l'autre côté. Et comme ça, je me suis présenté à Mendes College of Music. J'ai passé des examens, c'était tellement facile, c'était rien du tout. Et je me suis intégré. Et là, tout a commencé.
Parce que vous avez pu commencer évidemment à rencontrer des gens, parce que aussi vous avez eu sur votre passage des gens qui vous ont aidé également, qui vous ont mis le pied à l'étrier.
Exactement. Un an plus tard, on m'avait confié l'orchestre des étudiants de Mendes College of Music pour devenir leur chef, que j'ai fait pendant 4 ans, qui ont été indispensables.
Ça, c'est grâce à Rize Stevens.
Oui, grâce à Rize.
Et là, vous allez donc commencer à avoir cette vie américaine. Vous êtes déjà complètement polyglotte. Et va commencer la vie professionnelle.
Oui, c'était une découverte tous les jours.
Est-ce qu'il y avait, Semyon Bychkov, une forme de vertige, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose sûrement d'étonnant pour vous, qui était de vous retrouver au milieu d'une société qui était libre?
Ça, c'est absolument vrai. Mais comme j'avais aucune illusion que je suis rentré dans le monde parfait après être sorti du monde imparfait, j'étais jamais déçu. Par contre, la découverte, tout est disponible, tout est accessible. Ça, c'était extraordinaire, que jamais j'aurais pu recevoir en restant en Union soviétique.
Et ça vous donne encore plus d'appétit?
Mais bien sûr, l'appétit vient quand on mange.
Musique, les grands entretiens de Semyon Bychkov.
Vous allez donc avoir cette première expérience d'études américaines et puis les premiers emplois. On est en 1980 et on arrive dans le Michigan avec l'orchestre de Grand Rapide. C'est très poétique. J'imagine que c'est quelque chose de tout à fait particulier la première fois où on se retrouve à la tête d'un orchestre. On se dit, je l'ai mon instrument, je vais pouvoir le façonner, je vais pouvoir bâtir quelque chose. Vous êtes tout jeune.
Vous savez, quand on m'avait invité de diriger un concert, ils ont été en recherche d'un nouveau directeur musical. Il y avait 8 ou 9 concerts pendant cette saison-là 79-80, des chefs invités. Quelqu'un m'avait entendu diriger la Philharmonique de Buffalo, Trovatore de Verdi, au festival Art Park à New York. Quelqu'un de Grand Rapids a été là et parlé avec les directeurs de l'orchestre de Grand Rapids en disant qu'il faut absolument que vous invitiez ce chef, ce young chef. Ils ont dit d'accord, ils m'ont demandé si je suis un candidat. Je dis non, je suis candidat à rien. Mais je serai honoré si je peux venir et diriger un concert. Alors on s'est mis d'accord sur un programme. Et c'était tout premier concert de la saison. J'ai choisi la 39e symphonie de Mozart, mi bémol majeur, et la 5e symphonie de Mahler. Après le concert, j'étais élu à l'unanimité le nouveau directeur musical. C'était à moi de dire oui ou non. À ce moment-là, j'avais, en tant que manager, le plus célèbre qu'il y avait, Ronald Wilford, qui était président de Columbia Artists, qui m'a entendu avec l'orchestre de Manus Culture Music en concert, quand je dirigeais la 3e symphonie de Carl Nielsen, Symphonie Espansiva. Il m'a invité venir dans son bureau. Il a dit, je voudrais m'occuper avec vous. Avec votre talent, il faut que vous dirigez Chicago, Philadelphie, Boston, New York, Berlin, Vienne, etc., etc. J'ai regardé, j'ai dit, Ronald, mais c'est pas possible. J'ai 25 ans. Imaginez que je viens diriger l'orchestre de Philadelphie. On choisit une symphonie, par exemple, la première symphonie de Mahler. Moi, je connais pas le problème des symphonies. Et les musiciens de cet orchestre, ils connaissent déjà les réponses. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire à eux? Rien du tout. Donc, c'est pas ça qu'il me faut. Il m'a regardé comme si je suis tombé de la lune.
Mais ce qu'il vous fallait, c'était Grand Rapide, justement.
Oui, et ensuite, arrive cette invitation. Il m'a dit, non, 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 tu vas pas à Grand Rapids, Michigan. Je dis, mais pourquoi? Parce que tu vas avoir une réputation de chef des orchestres régionaux, les orchestres mineurs. Je dis, je dois y aller parce que j'ai besoin de travailler le répertoire. Je dois apprendre tout ce qu'il y a dans la vie de cet organisme qu'on appelle l'orchestre symphonique. C'est pas uniquement de faire la musique, c'est l'administration. Comment l'orchestre est soutenu pour la communauté. Tout cela, il faut que j'apprenne. Maintenant, vous êtes le plus éminent impresario qu'il y a. Alors c'est à vous de faire en sorte que je ne serai pas, pour le reste de ma vie,
coincé dans les orchestres
à Grand Rapids Symphony à Michigan. Et donc j'ai accepté et j'ai passé 5 ans avec eux. Et tout premier programme que j'ai dirigé en tant que directeur musical, c'était peut-être la combinaison la plus idiote de ma vie. J'ai commencé avec Also sprach Zarathustra de Strauss. Et après l'entracte, j'ai dirigé la 9e symphonie de Beethoven. Parce que je voulais tout faire en même temps, toute la musique qui était importante pour moi. Alors, il fallait coincer. Pauvre membre de la publique, sans parler des musiciens d'orchestre, il pensait que c'était vraiment un diable qui est arrivé dans la ville. Les lettres qu'on a reçues, étaient assez claires.
Passé en 1985 à l'orchestre de Buffalo, toujours quand même soutenu par ce fameux Ronald.
Pour cette nomination, il était tout à fait en faveur, parce que l'orchestre philharmonique de Buffalo avait une tradition des chefs, par exemple Joseph Cripps. C'était un orchestre extrêmement respecté aux États-Unis à l'époque.
C'est important quand même, Semyon Bychkov, de raconter aux auditeurs que dans cette période-là, 80-89, où vous êtes aux États-Unis, il y a les débuts de vos contrats avec l'Europe, justement, avec des grandes salles et des grands orchestres. Vous avez évoqué à l'instant l'année 85, qui n'est pas la plus anodine des années, parce que c'est l'année où vous allez signer avec Philips, donc ça c'est quand même extrêmement important, évidemment, dans la vie d'un interprète. Et puis c'est quand même le moment où vous remplacez au pied levé comme ça à la Philharmonie de Berlin. Ça vous arrive avec Mouti, ça vous arrive avec Jochum. Alors comment le Semyon Bychkov qui a à peine 30 ans, il se retrouve devant l'Orchestre Philharmonique de Berlin et d'autres. Il n'y a évidemment pas que cet orchestre, hein, mais c'est cette période-là où vous allez faire vos armes aussi.
Comme toujours, il y a une chance qui t'arrive, le destin qui te guide. Il faut être prêt à accepter et il faut être prêt à se montrer digne de la chance. J'étais encore à Grand Rapids, Michigan, justement. C'était l'année 85. C'était ma dernière saison, 84-85. Quand on m'avait demandé de remplacer Rovitsky, qui a tombé malade, en tournée avec l'orchestre de Bamberg. Donc, pour la première fois, je me présente en Allemagne, je vais à cet orchestre, c'était vraiment question de 24 heures, juste de faire le voyage, et plonger dans la répétition, faire la tournée, qui est très très bien passée. Donc je rentre à Grand Rapids, on est Noël 84. Trois semaines plus tard, je reçois un appel en me demandant d'aller à Berlin pour remplacer Riccardo Muti avec Philharmonique de Berlin. Et je dis, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Je dis, parce que j'ai la 9e symphonie de Mahler à diriger avec mon orchestre à Grand Rapids la semaine prochaine, justement. On est vendredi quand on m'appelle. Les répétitions à Berlin commencent lundi et à Grand Rapids aussi. Je dis, donc je ne peux pas, j'ai un engagement. Mais tu es fou? Non, c'est la vérité. Ok. Est-ce que tu peux voir s'il te libère? Je dis oui, je peux dire. Alors j'appelle mon président et je dis voici la situation. Une heure plus tard, il me rappelle. Tout le monde a pris la décision que c'était tel honneur pour Grand Rapids Symphony que leur chef va aller diriger Philharmonie de Berlin, qu'il me libère, ils vont me remplacer, il faut absolument que je vais à Berlin. C'était comme ça que je suis allé. Trois semaines plus tard, cette fois-ci, je devais rien annuler. Eugen Jochum a été malade, donc on m'avait demandé de retourner. C'est comme ça que tout a commencé un petit peu à évoluer.
C'est avec la symphonie en ut de Bizet que l'on referme le 4e épisode des Grands Entretiens avec Semyon Bychkov. Réalisation Gilles Blanchard. Prise de son Nicolas Mathias. Mixage Valérie Lavalard. Attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.